Alors, je ne vous cache pas mon embarras parce que c'est un exercice vraiment difficile. Je ne vais pas essayer de faire la synthèse de nos travaux. Pour ceux qui ont été là pendant deux jours, je pense vraiment que l'exercice est impossible. Ensuite, je note peut-être une trace de perversité chez les organisateurs qui m'ont demandé de faire ces conclusions. Néanmoins, je vais les remercier en notre nom à tous parce que les deux jours étaient fort intéressants et c'est justement ça le problème. C'est-à-dire que je suis moi-même très sceptique, j'aurais très envie de rentrer dans la discussion, de faire des objections et je trouve que m'avoir demandé de faire des conclusions qui sont supposées être synthétiques, pour ceux qui me connaissent, c'est un élément de perversité. Denis, je pense que tu peux te sentir un peu visé. Alors, donc merci aux organisateurs. Je dois ajouter que même si je suis très sceptique en général, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Alors, je ne vais pas synthétiser, je ne vais pas reprendre chacune des interventions des uns et des autres. Je vais essayer de dire quelques mots qui seront un mélange de ce que j'ai retenu et d'éventuelles discussions possibles. La première chose, c'est que, voilà, alors il y a un objet, c'est-à-dire il y a le droit constitutionnel global. Et je crois que l'intervention de Anna nous a offert une définition à la fois très synthétique et qui nous a permis de comprendre de quoi nous parlions. C'est d'abord un projet. C'est-à-dire c'est d'abord à la fois alors un idéal ou une idéologie, tout le monde n'est pas d'accord avec les connotations des termes différents, très bien, ou une idée régulatrice qui est celle du cosmopolitisme, qui est celle de la communauté politique universelle, qui n'est pas forcément l'État mondial, mais qui est celle tout de même de la constitution d'une communauté politique. Et là, le mot constitution dit aussi l'émergence d'une communauté politique, d'une communauté humaine universelle. Et évidemment articulé à un élément juridique, c'est-à-dire il y a quelque chose comme un matériau juridique, droit constitutionnel global, Sabino Cassese nous rappelait certains de ces éléments dans la conversation aujourd'hui, qui fonctionne en fait comme une espèce de grand réservoir de règles, de principes, des dispositifs, des techniques. Le Pierre nous disait à l'instant des modes de raisonnement, c'est-à-dire on fait de la proportionnalité, alors voilà, et on peut aller faire un peu du cherry picking, où on peut prendre des gros blocs, où on peut, enfin on peut, là les points de vue divergent et les méthodes divergent quant à quoi faire de ce réservoir. Reste que ça va dans deux directions. La première, c'est celle de la constitution de la société internationale, pour parler comme les internationalistes, et la deuxième, c'est celle de la transformation, de la globalisation des constitutions nationales. La discussion entre Sabino et Denis, là, vient de l'illustrer. Alors, tout cela, me semble-t-il, repose sur un certain nombre de prémices, et c'était tout l'intérêt de nos deux jours, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement accord entre les diverses personnes qui sont intervenues dans le colloque autour de ces prémices. Alors, je vais essayer de dire quelques mots des accords. Si on veut dramatiser, on parlerait de ligne de faille, on peut utiliser des métaphores plus ou moins dramatiques. Il me semble que le premier des accords, ça porte... Alors, voilà, moi je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens parmi nous qui pensent que « much ado about nothing ». C'est-à-dire, c'est pas tellement consistant. Et ça se traduit par un débat sur l'existence ou la non-existence du droit constitutionnel global. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que, etc. Moi, il me semble que le débat sur l'existence ou la non-existence n'est peut-être pas très bien placé, mais j'ai envie de reformuler cette ligne de faille dans les termes suivants. Il y avait un avant. Alors, on peut appeler cet avant la Westphalie, et immédiatement les historiens du droit vont me dire, mais non, pas du tout, parce que la Westphalie, c'était pas du tout ce qu'on pensait. D'accord, utilisons juste comme un mot, et dans la Westphalie, il y avait des constitutions nationales avec un démos, et il y avait du droit international qui était largement interétatique. Oui, je sais, il y avait aussi un peu de jus cogens, il y avait des coutumes, il y avait des choses comme ça, mais dans l'ensemble, on voit ce qu'on veut dire. Et nous avons fonctionné sur ce modèle-là, c'est-à-dire des communautés nationales de juristes ont fonctionné pendant des décennies et des décennies sur ce modèle-là. Je dis des communautés nationales de juristes parce qu'effectivement, ces modèles, qui sont des modèles épistémologiquement statocentriques, étaient produits par des communautés qui étaient elles-mêmes statocentriques. C'est-à-dire qu'il y avait des juristes français, des juristes allemands, des juristes japonais, tout ce monde-là. Quand ils se rencontraient selon les modalités d'une diplomatie académique où nous échangeons nos points de vue, nos expériences, etc. Alors, il me semble que les théories générales de l'État, les théories de la Constitution que nous connaissons au XIXe et XXe siècle, illustrent parfaitement le genre de choses qui se faisaient. Le but était de fonder, de constituer et de limiter les ordres juridiques nationaux. J'ajoute un mot peut-être pour Marie-Claire, c'est qu'il me semble que dans ce dispositif épistémique-là, l'histoire du droit et le droit comparé jouent un rôle très important et font partie du dispositif épistémologique statocentrique westphalien. C'est-à-dire que ce sont des sciences auxiliaires, parce que, évidemment, ce ne sont pas des systèmes clos, et tous ces juristes appartenant à des communautés nationales et discutant, participant à l'élaboration de l'ordre juridique national, discutent avec leurs voisins et vont regarder ce qui se passe à côté. Et donc, ça n'est pas, je ne suis pas en train d'écrire des monades. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on appelle le droit global apparaît dans ce cadre-là comme des choses complètement impensables, monstrueuses, difficiles, invraisemblables, confuses. C'est ce que Benoît appelle des ogni, des objets juridiques non identifiés. C'est-à-dire, tout d'un coup, débarque quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas capable, qui vient, un peu ce que Lacan appelle le réel, quoi. C'est-à-dire ça, ce qui dépasse notre capacité d'imagination. Et c'est apparu très fortement dans ce colloque. Il y a beaucoup de gens qui, là par exemple Olivier, deux ou trois de tes remarques, visaient à dire « oui mais moi je trouve ça confus, vous dites que c'est une constitution, vous dites que c'est la constitutionnalisation, non non, c'est juste de la juridification, parce que la constitution c'est ça ». Et quelque chose, une espèce de réticence à penser ces objets autrement que du point de vue de nos catégories que nous connaissons déjà. Et là, j'ai envie de dire quelque chose, c'est que c'est absolument possible. Je crois qu'on doit pouvoir prendre tous les phénomènes que l'on réduit ordinairement, que l'on associe ordinairement au droit constitutionnel global, y compris la FIFA, le CIO, le dialogue des juges, l'intégration horizontale de tout un tas de dispositions. On peut absolument penser tout ça dans le cadre de l'épistémologie westphalienne. Il n'y a aucun problème. Il reste qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas fait ce choix épistémologique-là, qui ont pris ce que j'ai appelé dans un de mes articles le « global turn », c'est-à-dire l'idée de se mettre à penser ces phénomènes d'un point de vue épistémologique qui serait épistémique, qui serait une perspective globale sur ces objets-là. Et donc, une première... Alors, de quoi je parle ? Je parle de tous ces monstres, justement, des constitutions sans peuple, sans pouvoir constituant, des constitutions sans territoire, des constitutions sociétales, pas politiques, du droit sans sanction, enfin bref, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, là, il me semble qu'il y a une question qui est une question, qui est un choix, qui est un choix politique. C'est-à-dire qu'on peut vouloir entrer dans le monde du postmoderne, on peut vouloir rester dans le monde moderne, et on y arrivera très bien. C'est-à-dire, c'est pas... C'est pour ça que je suis très réticent dans la discussion qui nous a beaucoup agité à propos de l'existence du droit global, parce que la question de la réalité, la question de l'existence, elle me semble être indécidable dans cette conversation-là. D'ailleurs, si vous avez un concept de constitution un peu robuste comme Olivier, vous pouvez très bien penser que tout ce dont on parle, ben, ce n'est pas du tout du droit constitutionnel, mais ça va très bien. C'est-à-dire, tout dépend de vos présuppositions, il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc la question de savoir si le droit constitutionnel global existe ou n'existe pas, ça dépend tellement des prémices de chacun que je ne suis pas sûr que ce soit dans ces termes-là qu'il faille poser la question. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se poser la question de l'opportunité ou pas de décider de changer de perspective épistémologique pour mieux comprendre ou pour dire des choses qui ne se disaient pas avant ou pour, etc. Enfin voilà, là il y a une question politique. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'il me semble que de ce point de vue-là, ce colloque même indique que quelque chose est en train de bouger. Ce quelque chose est en train de bouger, c'est si vous me suivez, si la question de l'existence du droit constitutionnel global ne se pose pas, c'est-à-dire si c'est un peu comme la chose en soi chez Kant, ça existe, mais ce n'est pas très connaissable. Et ce que ça nous apparaît par les conversations que nous en avons, en fait, toute cette affaire-là est une conversation. Et ça, c'est un thème qui nous a beaucoup animés. Est-ce qu'il y a des vrais phénomènes? Est-ce que c'est juste une conversation? Quel est le rapport entre les faits? Bon, moi, je suis un fervent partisan de l'idée que c'est d'abord une conversation. Et ce que je note, c'est que la conversation, elle est devenue nécessaire. Il y a encore 10 ans, ou même 5 ans, on aurait très bien pu ne pas faire un colloque sur le droit constitutionnel global à l'Université de Paris 2. Mais il se trouve qu'on en fait. Non, mais voilà. Et ce que ça dit, c'est une montée en puissance de cette conversation qui devient donc, parce que la conversation, ça veut dire des bibliothèques entières de livres, ça veut dire des colloques, ça veut dire des journaux, ça veut dire toute une communauté scientifique qui commence à se mettre en place et qui se définit elle-même comme une communauté globale avec laquelle il n'est plus possible de ne pas entrer en relation. Et ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Je crois que ce colloque dit quelque chose et nous invite au fond à indépendamment de la question de savoir si ça existe ou pas, de toute façon, l'important, c'est qu'on en parle. Fin de mon premier point. Alors maintenant, parlons-en justement. Et quand on en parle, et qu'on en parle du point de vue de cette perspective globale que j'appelle le Global Turn, là, on rencontre une deuxième difficulté, enfin, pas difficulté, mais je ne sais même pas si c'est une ligne de faille, mais disons, une deuxième série de questions qui, me semble-t-il, peut se formuler. La question, c'est jusqu'où on prend le Global Turn. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire, jusqu'où on va aller dans le décentrement de la perspective nationale dont on vient. Alors là encore, dans un même article que je mentionnais tout à l'heure, j'avais cette métaphore, je disais que les global professors, c'est-à-dire les professeurs qui ont embrassé la perspective globale, sont comme des immigrés dans une terre nouvelle. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils découvrent un monde où ils parlent à des audiences nouvelles qui sont non pas les audiences de la communauté nationale d'où ils procèdent, et donc des audiences dans lesquelles on n'a pas lu les mêmes livres, on n'a pas de bibliothèque commune, on n'a pas toujours de langage commun, dans lequel très souvent il faut parler une autre langue que la sienne, et dans laquelle la question de savoir qu'est-ce qui peut bien intéresser les gens à qui je m'adresse est une question qui est beaucoup plus difficile à résoudre que dans la communauté d'origine. Mais en même temps, ce sont bien sûr des gens qui ont conservé tous les acquis et la vie de la communauté d'où ils procèdent. Un global professor japonais n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir avec un global professor indien parce que la question de la globalisation n'a pas la même signification vue de là où il vient et parce qu'il n'a pas lu les mêmes livres et que l'expérience n'est pas la même. C'est pour ça que la métaphore de l'immigration est intéressante parce qu'on arrive et alors on est un immigré mais on a quand même conserver toutes les ambivalences de l'immigration, la nostalgie pour les tartes de mamie et l'admiration pour le monde nouveau qu'on embrasse, mais etc., etc. Alors, les manières de se positionner dans cet espace-là me paraissent être à la fois... il y a une infinité de degrés de manières. Et là, de ce point de vue-là, je crois que la question, c'est jusqu'où ou pas on est sérieux dans le fait de changer de perspective. Et bien évidemment, la difficulté, c'est le mécanisme de la projection. Je crois que ça a été très présent de manière implicite ou explicite dans nos discussions, mais pour le dire brutalement, beaucoup de collègues reprochent aux partisans du droit global constitutionnel de ne pas être globaux du tout, de juste se contenter de projeter worldwide une conception qui est en fait pas du tout globale, qui est européenne et qui est tirée de l'expérience de l'Union européenne. C'est pour ça que Denis, je répondrai à ta place à la question que te posait Olivier en disant il y a en plus une raison pour identifier complètement l'Union européenne avec le droit global, c'est qu'il est possible que ce soit juste la même chose. C'est ça la thèse de la projection. C'est-à-dire qu'au fond, cette histoire de droit global ne soit que la généralisation d'une expérience particulière qui est celle de la constitution, enfin du processus de constitution sans démos qui a été l'Union européenne. Alors cette question de la projection, elle est à prendre très au sérieux. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas au fond en train de faire exactement la même chose en ayant le mot global partout, mais en n'ayant pas véritablement opéré ce décentrement. Je crois qu'ici, il y a eu un manque dans notre discussion. C'est qu'on a beaucoup discuté du droit constitutionnel global et du droit global en général, sans prendre en compte un des éléments qui me paraît être une dimension constitutive de tout ça, qui est la question de l'internormativité. Je continue à citer Benoît. Il est bien possible qu'à l'échelle globale, il n'y ait pas que du droit. Il est bien possible que ce qui soit en train de constituer la société internationale, ce soit aussi des discours économiques, ce soit aussi des normes techniques, ce soit aussi... on a assez peu abordé ces questions-là. J'ai trouvé que nous avons été très centrés sur notre objet, comme l'objet juridique, et en particulier qu'on ne s'est pas posé la question de l'articulation entre le droit et ces autres normativités, qui peuvent être des normativités concurrentes. On rencontre aussi cette question-là au versant géographique, si j'ose dire. C'est-à-dire la globalisation, c'est quand même d'abord le résultat d'un processus d'expansion du juridisme occidental, qui a duré plusieurs siècles, qui s'est traduit soit sous la forme de la colonisation avec direct or indirect rule, mais ça pouvait être aussi sans la colonisation, avec cette espèce d'appropriation volontaire mais forcée, si j'ose dire, comme dans les cas de la Turquie, comme dans les cas du Japon, comme dans le cas de la Thaïlande. Et le résultat, ce sont le résultat de rencontres entre des ordres normatifs. Et il me semble que le droit global est très difficile à comprendre, jusque y compris le droit constitutionnel global, en dehors de ce modèle de la rencontre entre des ordres normatifs hétérogènes. Des collisions, comme dirait Gunther. Et là, effectivement, c'est pour ça, Olivier, pardonne-moi, mais j'ai eu un mouvement d'humeur, parce qu'il y a des rencontres. Ces rencontres sont très difficiles à étudier, elles produisent des choses tout à fait étonnantes, et je crois que la dernière des façons de les aborder, c'est le face-à-face entre l'universalisme des droits de l'homme et le particularisme de la souveraineté, parce que là, les deux sont complètement pris dans le discours du juridisme occidental et ne disent absolument rien de l'altérité que nous serions censés penser dans ces événements et ces processus qu'ont été les rencontres avec des ordres normatifs hétérogènes non occidentaux. Voilà, donc une critique de la projection, critique qui avait déjà été adressée au projet du Global Administrative Law, c'est évidemment une remarque pour Sabino, qui, dans lequel beaucoup de gens ont vu une projection très impérialiste au fond du droit administratif américain, et qu'on peut donc décliner à l'infini, sauf qu'il semble que le modèle soit plutôt européen pour le droit constitutionnel global. Alors, voilà, la question, me semble-t-il, pour prendre au sérieux la possibilité du Global Turn et pour chercher à sortir de ce débat pas très intéressant au fond de « mais si vous êtes globaux, mais non, vous n'êtes pas globaux, vous vous contentez de projeter votre particularité à l'échelle planétaire », c'est de réfléchir à la question des circulations. C'est-à-dire, comme on le disait, le droit global, le droit constitutionnel global, c'est un réservoir de tous ces outils, ces dispositifs. Alors, regardez comment ça circule, mais regardez comment ça circule, pas du point de vue de la diffusion, pas du point de vue de ceux qui les diffusent, c'est-à-dire pas du point de vue des sociétés savantes de constitutionnalistes partisans du droit global, pas du point de vue des gens qui sont, qui font ce projet qu'est le droit, mais du point de vue des récepteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne quand on le reçoit ? Dans les termes dans lesquels ceux qui le reçoivent le reçoivent. Et alors là, évidemment, ça devient difficile, parce que ça veut dire qu'il faut se mettre à parler thaïlandais, il faut se mettre à parler japonais, il faut se mettre à se demander qu'est-ce que ça a pu vouloir dire au Japon d'avoir reçu une constitution clé en main. Il s'est avéré, les travaux d'historiens récents l'ont montré, qu'elle avait été écrite par le secrétariat de MacArthur. Et quelle est aujourd'hui la signification de cette constitution dans un univers mental, dans un imaginaire collectif, qui est la société japonaise ou qui est la société thaïlandaise. Et moi, là, je commence à devenir très sceptique. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la diffusion du projet dont nous parlons. Il est bien possible que dans le voyage, la signification de ces choses-là ait été très radicalement transformée, parce qu'elles sont plongées dans un bain, Gunther reconnaîtra des éléments de sa théorie, elles sont plongées dans un bain, Gunther dirait un système, j'imagine, dans lesquels la signification de ces fragments devient complètement transformée et différente. Et quand je dis la signification, c'est même la question de savoir est-ce que c'est du droit. Je ne suis pas absolument certain que la constitution japonaise constitue l'État japonais. Je ne suis même pas certain que ce soit des normes. Quand je regarde le fameux article 9 qui interdit la constitution d'une armée, ben ça n'a pas empêché le Japon d'avoir une armée. Ah mais du tout même. Il y a un moment où le Japon, là, ils se sont fait dépasser par la Chine, mais avait le budget militaire le plus important en pourcentage. Bon, ça me fait dire que ça ne doit pas avoir le même sens, le mot constitution. Et peut-être que ce qui constitue l'État japonais, je parle sous le contrôle de notre collègue, peut-être c'est ailleurs. Peut-être c'est ailleurs dans le, je ne sais pas moi, dans quelque part dans les institutions politiques japonaises, peut-être dans le triangle entre le business, la haute administration et le Jiminto, peut-être dans des choses comme ça. C'est peut-être ailleurs qu'il faut aller le chercher, peut-être pas là. Alors ça voudrait dire que peut-être avoir une constitution, et j'aime bien l'exemple du Japon parce qu'il est cité en exemple comme étant la grande réalisation du constitutionnalisme global, puisque c'est le bon élève de l'Asie, ben peut-être qu'en fait pas tellement. Et donc peut-être qu'en fait quand on ne voit les choses que du centre, eh ben, on a une vision très biaisée de ce qui peut se passer, et ça peut conduire à des débats comme le débat dans lequel Denis emmenait Anna, sur la question de savoir jusqu'où on est d'idéaliste, lucide ou réaliste, et peut-être en fait il faudrait qu'on se raconte moins d'histoires. Et c'est ça, me semble-t-il, la question. Si on veut se raconter moins d'histoires, eh ben alors il faut faire le shift, il faut passer de l'autre côté du front de la modernisation, et il faut aller se demander quelle signification ce front de la modernisation a pour les moderniser. Et là, on risque d'avoir des surprises. Alors, je vais vite, je dis simplement encore un mot là-dessus. Je crois qu'on est très au-delà de la question des différences. En tout cas, on est très au-delà de la dialectique de l'universel et du particulier, et très au-delà de l'intégration des différences culturelles. Parce que l'intégration des différences culturelles, c'est toujours dans un cadre juridique qui, lui, est fort heureusement universel. Donc, droit universel, culture particulière, là on est dans la dialectique de l'universel et du particulier, c'est génial, le juridisme occidental gagne tout le temps la fin. Il est bien possible qu'en fait ce ne soit pas le cas, il est bien possible, c'était ce que j'essayais de dire, la question qui visiblement a provoqué des remous, peut-être que l'articulation des ordres normatifs hétérogènes dans le droit global n'est pas le droit. Peut-être que ce ne sont pas des schémas juridiques. Et le fait de présumer que l'articulation entre les ordres normatifs hétérogènes dans la société globale sera le travail, l'œuvre du droit, eh bien, peut-être que c'est ça l'ethnocentrisme universalisant qui pose un très gros problème et qui va bloquer les processus d'universalisation concrets, parce que les prétentions à l'universel sont souvent bloquantes, c'est ce que je disais ce matin. Voilà. Donc, moi, je crois que là, de ce point de vue-là, j'avais une question pour toi, Anna, j'avais une question pour Gunther. Est-ce que véritablement le modèle des coordinations, est-ce que c'est le droit international privé qui nous le donne? Est-ce que c'est le dialogue des juges qui nous le donne? Ou bien est-ce que ce sont des institutions qui n'ont aucun rapport, dont nous n'avons pas les moyens de parler ici, parce que nous sommes beaucoup trop au centre pour le savoir, et que pour ça il faudrait, je ne sais pas, par exemple, se demander ce que ça donnerait dans le cadre d'une hégémonie chinoise qui est déjà à moitié réalisée en Asie? Je suis complètement capable de répondre à cette question. Alors, je dis, mais j'en pointe l'enjeu. L'enjeu, c'est que si on ne fait pas ça, eh bien, on sera un gentle civilizer, comme dirait Marty Koskenemi, avec toutes les qualités, tous les défauts des gentle civilizers, et on va se retrouver effectivement avec les débats que Denis soulève avec raison, qui est-ce qu'on n'est pas en train de se raconter des histoires. Très bien. Je dis un dernier mot là, et je m'arrête. C'est à propos de la troisième prémisse qui nous a aussi beaucoup occupés, en particulier dans la discussion finale. Quel rapport entre le droit constitutionnel global et le libéralisme ou la démocratie? Dans le projet, il y en a un. Sabino nous rappelait très opportunément que le droit constitutionnel global s'était moins développé que le droit administratif global, parce que le droit constitutionnel national s'était construit dans la lutte contre les exécutifs, contre l'arbitraire des exécutifs. C'est-à-dire la naissance du droit constitutionnel en Europe, c'est Louis XIV, disais-tu. Je trouvais très intéressante cette formule et très, très juste. D'ailleurs, on oppose du droit et des juges au pouvoir absolu du monarque. Or, il est vrai qu'il n'y a pas un exécutif central au niveau global, donc c'est pas ça qui s'est développé d'abord, bien sûr. Mais ça suggère tout de même que le droit constitutionnel global est dans la continuité de ce projet, appelons-le libéral, de préservation des libertés, les droits de l'homme. Enfin, je ne développe pas parce que je crois qu'on voit à peu près de quoi on veut parler. Et là, je crois aussi qu'il y a une question difficile à se poser. C'est que de plus en plus, alors effectivement, tous les fragments constitutionnels dans le réservoir sont utilisés partout. Il y a effectivement plein d'intégrations horizontales. Tous les pays maintenant ont des constitutions, mais ça ne les rend pas tellement plus libéraux. Et sans aucun doute pas plus démocratiques. Je reprends l'exemple du Japon. Shinzo Abe, premier ministre du Japon, qui n'est pas un libéral, ça je crois qu'on peut s'y entendre assez facilement là-dessus, n'a aucune difficulté avec la Constitution, il adore ça, d'ailleurs il veut la réviser, et il va aller puiser dans tout le répertoire du droit constitutionnel, c'est-à-dire dans la boîte à outils pour aller chercher de quoi faire des révisions, et ça va donner du constitutionnalisme autoritaire. Et la possibilité de projet constitutionnaliste autoritaire, de projet de droit constitutionnel autoritaire, pour le dire autrement, je ne suis pas du tout sûr qu'une constitution soit une condition suffisante pour la protection des libertés et a fortiori pour l'autonomie dont Denis éprouve la nostalgie. Et donc, je l'ai bien compris. Pardon. Enfin bon, dont je fantasme Denis éprouvant la nostalgie. Oui, mais ça, c'est parce que tu veux conserver le sens du droit constitutionnel. On pourrait très bien te dire, il y a des constitutions qui, précisément, n'ont plus aucun rapport avec l'autonomie, plus aucun rapport avec la liberté, et c'est comme ça. Et il est bien possible que le projet du droit constitutionnel global, ce soit ça, en fait. C'est-à-dire que, pas ce soit ça au sens où le projet soit ça, mais au sens où c'est ça que ça va donner. C'est-à-dire, on va donner des outils de droit constitutionnel à tout un tas de gens qui ne veulent ni l'autonomie ni la liberté, qui vont s'en servir très bien pour faire d'autres choses, et on va se retrouver avec du droit constitutionnel qui n'a plus aucun rapport ni avec l'autonomie ni avec les libertés, et nous, on se dira, bon ben voilà, il faudra la penser autrement, ou bien essayer d'engager la lutte pour la définition du droit constitutionnel comme lié à la démocratie et à l'autonomie. Ce sera le prochain combat de Denis. Voilà. Donc... Je conclue là-dessus en remerciant encore une fois chacun des intervenants, le public malgré la chaleur, les organisateurs bien sûr. Il me semble que toutes ces questions-là sont vraiment passionnantes et que pendant 2 jours, nous avons eu de très très beaux débats.